Grand Angle.
Grand Angle sur Radio Orient. Les forces démocratiques syriennes qui avaient combattu l'organisation État islamique pendant la guerre civile n'existent plus. Leur chef, Mazloum Abdi, en a annoncé la dissolution ce mardi, conformément à un accord conclu avec le président Ahmad al-Sharaa. Cette force, dominée par les combattants kurdes du nord-est de la Syrie, avait pourtant joué un rôle majeur ces dernières années. La dissolution des forces démocratiques syriennes entérine aujourd'hui la promesse du président Ahmad al-Sharaa de réunifier le pays morcelé par une longue guerre civile et de démanteler les groupes armés. Pour en parler, notre invité est Arthur Kenné, docteur en sciences politiques, rattaché à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et co-auteur de l'ouvrage « Anatomie d'une guerre civile ». Bonjour.
Bonjour.
Alors, le pouvoir syrien et les forces démocratiques syriennes négociaient depuis des mois l'application d'un accord conclu en janvier, prévoyant l'intégration complète des institutions kurdes dans l'appareil d'État. Cette dissolution apparaît comme un point d'orgue de cette intégration. Que sait-on du contenu de cet accord et de son application jusqu'à aujourd'hui ?
Donc, comme vous l'avez dit, ça fait des mois que les forces démocratiques syriennes auraient dû être dissoutes. Et en fait, ce qu'on observait depuis plusieurs mois, depuis la chute du nord-est syrien en janvier 2026, c'est une forme d'inertie et à nouveau une polarisation croissante entre les forces kurdes dans les réduits qu'elles possèdent encore, autour dans la Jézirée, notamment autour des îles de Hasaké et Kanishi, et les forces de Damas qui avaient repris pied donc à Raqqa, à Deir ez-Zor, et qui ont jusqu'à aujourd'hui pas l'occasion de se déployer dans les zones encore contrôlées par les Kurdes. Ce qu'on voit également, c'est que cet accord prévoyait donc un retour des institutions de Damas dans les zones kurdes, notamment des ministères régaliens, la reprise des administrations et l'intégration des forces militaires, des SDF, dans l'armée syrienne. Pour l'instant, tout ça est encore assez balbutiement. L'administration autonome qui gérait les régions kurdes fonctionne toujours, les salaires sont toujours payés. Il n'y a pas de retour des ministères Damas dans ces zones. Les forces de sécurité syriennes se déploie timidement par quelques dizaines d'individus dans les Al-Kanishi et Hasaké, mais pas au-delà. Et en revanche, les forces démocratiques syriennes, elles, sont été en voie d'intégration dans 4 brigades de l'armée syrienne, qui représentent environ 5300 hommes. Mais ces formations sont encore en cours et que c'est quelque chose de positif. Derrière, on compterait peut-être 20 000 combattants, SDF et Hasaïch, qui sont encore mobilisés et qui servent dans les rangs des forces kurdes. Et donc la déclaration de Mazloum hier à Damas est importante parce qu'elle met quelque part fin à cette institution militaire. Mais derrière, quels vont être les termes de l'application de cet accord ? Tout ça reste encore à être défini.
Arthur Kenné, comment expliquer que cela prenne autant de temps ? Est-ce qu'il y a eu un vrai problème de confiance entre les forces démocratiques syriennes et Damas ?
Le gouvernement syrien, en janvier 2026, quand il lance les opérations contre le nord-est, fait tout pour éviter de nouveaux massacres, comme ce qui s'était prévu, passé sur la côte en mars 2025 ou à Soueda contre les Druzes en juillet 2025. Donc, sitôt en fait l'opération commençait, elle dure quelques jours, surtout une insurrection locale des populations arabes qui n'en pouvaient plus du contrôle kurde. Et derrière, Damas fait tout pour stopper les opérations au bout de quelques jours et de repasser au politique. Et le politique, c'est donc les accords de janvier 2026 et ensuite des négociations pour appliquer ces accords. En revanche, derrière ça, les Kurdes vont jouer la montre jusqu'à aujourd'hui en espérant que Damas soit plus affaibli et qu'en fait, elle puisse être en rapport de force à nouveau pour négocier une forme d'autonomie des zones kurdes en termes de forces de sécurité locales, d'institutions, notamment de communes au niveau local, et également sur l'économie, avoir leurs entreprises donc kurdes contrôler encore une partie du pétrole et des ressources locales. Face à ça, donc, Damas s'impatiente. Et finalement, ce qui a tranché, c'est la pression américaine, notamment l'envoyé de Trump, Tom Barrack, qui a obligé Mazloum à faire ses déclarations. Donc Mazloum a d'abord fait une première déclaration le 20 août dernier, où il dit que l'accord d'intégration avait fonctionné et que les forces étaient bel et bien intégrées, etc. Derrière ça, Damas a contre-attaqué en lui demandant d'aller plus loin. Et c'est donc sa visite à Damas hier, où il déclare publiquement, en présence des cadres politique syrien, la dissolution des forces démocratiques syriennes. Après, quelle va être la réalité de cette dissolution sur le terrain? Tout ça est encore en cours de négociation et quelque part une forme de rapport de force continue.
La position américaine, elle est très claire, on l'a bien vu avec la réaction de l'envoyé américain en Syrie, Tom Barrack, qui a parlé de décision historique après la dissolution des forces démocratiques syriennes. Et cette annonce de la dissolution survient au lendemain du retrait américain de la Syrie de la liste des États accusés de soutenir le terrorisme. Donc là, on a un rapprochement Damas-Washington totalement confirmé.
Oui, bien sûr, depuis la rencontre entre Trump et Ahmed Shara en Arabie Saoudite, qui était un vrai tournant. Et derrière, le rapprochement, la normalisation de la Syrie sur la scène internationale et le rapprochement entre la Syrie et les États-Unis ne fait que se confirmer. Les États-Unis soutiennent notamment la Syrie face à Israël pour éviter que l'invasion israélienne ne se transforme en des bombardements et une vraie tentative israélienne de déstabilisation du processus politique en Syrie. Et évidemment, la levée des sanctions est des pas extrêmement positifs. Après, sur la question kurde, le problème, c'est que la diplomatie américaine est très désorganisée par l'administration Trump. Donc, il y a cet envoyé spécial Tom Barrack avec une équipe extrêmement restreinte qui, en fait, ont supervisé des négociations qui ont fait que échouer entre Kurdes et Damas. Ce qui fait que ça a mis les Américains dans une position très ambiguë. Ils étaient à la fois avec leurs forces spéciales et un soutien militaire aux forces kurdes dans le nord-est syrien et à la fois en train de normaliser politiquement une nouvelle stratégie vis-à-vis de Damas. Et évidemment, dans ce cadre-là, les Américains ont tranché et ont fait tout pour pousser les Kurdes à se normaliser avec Damas, d'où le soutien à cet accord.
Et au niveau régional, cette annonce, est-ce qu'elle marque aussi une victoire pour Ankara? Parce que la Turquie apparaît comme l'un des acteurs les plus influents en Syrie aujourd'hui.
Alors c'est un pas positif qui est à remettre dans le contexte du processus de paix en Turquie, désarmement du PKK et la fin des activités du PKK en échange d'une politique d'amnistie. Donc cela vient d'être ratifié par le Parlement turc la semaine dernière. Et donc là, on est quelque part dans les effets régionaux de cet accord de paix en Turquie. La position maintenant de Mazloum en Syrie va être difficile, mais tout comme la position d'Öcalan en Turquie. C'est-à-dire qu'on a deux leaders kurdes issus du PKK. Alors, évidemment, ils n'ont pas la même position dans l'organisation, mais ils se retrouvent face à aux mêmes ambivalences stratégiques, c'est-à-dire s'intégrer à un système politique finalement extrêmement centralisé, que ce soit en Turquie ou en Syrie, qui a tout d'un régime autoritaire en devenir. Et donc là-dedans, la question du marge de manœuvre politique pour exister, pour Mazloum Kobané et le leadership kurde, se pose. Et c'est pour cela qu'ils sont extrêmement prudents et qu'ils jouent au sein d'une forme de négociation en permanence afin d'obtenir des positions. Et maintenant, l'application de cet accord, l'élément clé, va être quelle position Mazloum Kobané, mais également ses cadres comme Ilham Ahmed et Yusuf Anamo, vont obtenir au sein du gouvernement, du nouveau gouvernement syrien et dans l'État syrien. On parle finalement de liste de nominations de cadres kurdes relativement réduites. Donc on a à peu près une cinquantaine de hauts cadres kurdes qui devraient rejoindre les hautes fonctions de l'État, sans l'administration, les affaires étrangères. Et quelques commandants militaires kurdes qui devraient obtenir aussi des postes au sein du ministère de la Défense. Mais c'est un vrai enjeu. Et après, sur le niveau local, la question c'est que va-t-il advenir des employés de l'administration autonome kurde qui doivent être repris et réemployés par le nouvel État. Mais en fait, on voit que Damas fait des formes de sélection, notamment sur le niveau, la qualification et les diplômes de ses employés. Donc on est encore dans une espèce de flou sur comment concrètement ces accords vont être réalisés sur le terrain. Mais c'est certain qu'à présent, Damas est en position de force.
Arthur Kenney, le chef kurde syrien Mazloum Abdi, quand il a annoncé la dissolution des forces démocratiques syriennes, il a tenu à rappeler l'importance de l'usage de la langue kurde. Est-ce que le combat maintenant pour les Kurdes syriens, il se trouve là sur le plan culturel ?
Oui, tout à fait. Donc je pense que les leadership kurdes parviendra à conserver une forme de contrôle sécuritaire sur les zones kurdes, tout cas, ils ont une masse de combattants encore disponibles qui leur permettra de s'assurer qu'il n'y ait pas de violation des droits des Kurdes sur place dans les enclaves kurdes. Après, sur les questions politiques et culturelles sont extrêmement importantes. Donc, pour les questions politiques, c'est le même problème se pose à eux que pour le reste des Syriens. C'est quel va être le rôle véritable du Parlement, l'indépendance du système judiciaire et la liberté aussi économique, qui sont quand même clés. Savoir si on va vers un marché monopolisé par les nouvelles autorités ou une compétition plus ou moins libre dans le pays. Et après, sur le plan culturel, vous avez raison de souligner l'importance de l'éducation et de l'éducation en langue kurde. Et en fait, c'est un point de négociation qui a été très difficile, sur lequel les Kurdes refusent aucune concession. Donc pour l'instant, Damas, dans cet accord qui a été, dans ces déclarations qui ont été faites hier entre Chara et Mazloum, Chara a accepté que l'éducation continue en langue kurde pour un an et qu'ensuite elle repasse en arabe. Et là-dessus, Mazloum a refusé en disant que non, dans les zones kurdes, l'éducation devait être kurde. À voir ce qui va être décidé à la suite de cela.
Et si après l'annonce de la dissolution, rien ne se passe, quels sont les risques ?
En fait, il y a un grand risque que rien ne se passe. Damas lance des opérations sécuritaires, notamment insurrection à Saké, puis entrée en force, la ville d'Asaké, où la situation est extrêmement tendue. Et on craint de nouveaux combats. Un peu comme c'est passé à Ras El Ain, tu sais, il y a deux semaines, quand un convoi de familles kurdes a essayé de revenir.
Merci beaucoup Arthur Kéné, docteur en sciences politiques, rattaché à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et co-auteur de l'ouvrage « Anatomie d'une guerre civile ». Et merci à vous d'avoir écouté cette émission. Vous pouvez nous retrouver sur le site de Radio Orient ou sur Spotify.
C'était Grand Angle.